Europe 1. La libre antenne, Sana Blanger.
Et bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accompagner dans la libre antenne d'Europe 1. J'espère que vous allez bien. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit pour une libre antenne où vous pouvez libérer la parole parce que ça fait du bien. Vous le savez, la libre antenne est votre émission. Chaque soir de cet été, j'ai décidé de partager un mot avec vous qui m'a marqué dans la journée. Et ce soir, j'ai choisi le mot « envie ». De quoi avez-vous envie ? Comment gérez-vous vos envies ? Ressentez-vous vos envies comme des frustrations ? Ou plutôt comme des objectifs à atteindre ? Comment faites-vous pour satisfaire vos envies ou pour les oublier ? Appelez-nous au 3921 pour partager votre avis, vos expériences, vos histoires de vie, vos coups de cœur et vos déceptions. Si vous souhaitez participer à cette chaîne d'amitié qu'est la Libre Antenne par SMS, il vous suffit de composer le 73921 en commençant par le mot « nuit » ou par mail à libreantenne@europe1.fr. Adrien et Cindy, fidèles au poste, vous répondront au standard du 3921. Et d'ailleurs, ce soir, il y a de la place. Et c'est Laurent Pellet qui réalise l'émission ce soir. À tout de suite.
La Libre Antenne sur Europe 1, Sana Blanger.
Nous démarrons l'émission avec Myriam. Bonsoir Myriam.
Je vous remercie de m'écouter.
Mais je vous en prie.
Ça m'est très difficile de vous parler.
Ah, bon.
Oui. Écoutez, j'ai envie, comme vous le disiez, j'ai envie de sortir ma maman d'où elle est.
Vous avez envie de sortir votre maman ?
D'où elle est.
D'où elle est ?
Oui.
Vous voulez nous en dire un petit peu plus ?
Oui, je vais vous en dire un peu plus. Voilà. Ma maman est dans une maison de retraite. Elle est dans une maison de retraite depuis un peu plus d'un an.
Oui.
Elle est arrivée dans cette maison de retraite. Elle marchait difficilement, mais elle marchait avec un déambulateur. Elle avait été par deux fois dans une maison de convalescence où on lui faisait un peu de rééducation et où elle marchait un peu avec son déambulateur.
C'était suite à une opération, une maladie ?
Non, suite à ce que d'un seul coup, elle s'est mise à plus pouvoir marcher beaucoup.
Ah, d'accord.
Plus pouvoir conduire.
D'accord.
Donc, elle était chez elle, elle avait un chez elle. Et puis, elle s'est mise une nuit, elle est tombée.
Oui.
Donc, moi, je suis dépendante aussi. Donc, c'est ma sœur, que je ne considère plus comme ma sœur maintenant, qui a été appelée. Elle a relevé ma maman, elle a appelé. Secours.
Oui.
Et puis, comme elle connaissait un établissement où elle avait déjà travaillé, elle a été mise dans une maison de convalescence pendant un mois.
D'accord.
Maman est retournée chez elle après. Elle est retombée.
Ah mince.
Donc, elle est retournée dans cette maison, mais c'était la dernière fois. Suite à ça, ma sœur, je vous dis carrément, ce qu'elle a dit. Elle voulait se débarrasser de maman. Elle ne voulait plus s'en occuper. Donc, avec l'aide d'un médecin qu'elle connaissait à cette maison de convalescence et une infirmière, elles l'ont mise dans une maison de retraite. Maman ne voulait pas y aller. Mais elle n'avait pas le choix. Et moi, je suis dépendante. Je ne voulais pas que maman aille là-bas.
Myriam, quand vous dites que vous êtes dépendante, qu'est-ce qui vous arrive, vous ?
Je suis dépendante parce que j'ai des gros problèmes au niveau des pieds, au niveau des mains. J'ai beaucoup de mal à me déplacer. Et mes mains, tout me tombe de mes mains.
Ah, je comprends.
Et on ne sait pas ce que j'ai. On met tout sur le compte d'une dépression. Parce que j'étais en dépression pendant très très longtemps, avec des traitements. Et maintenant, je ne supporte plus aucun médicament. Rien. Donc ma maman, c'est mon fils qui a fait l'intermédiaire entre, je vais dire ma sœur, puisque je ne peux pas vous dire son prénom. Mmh. Et mon fils a été écœuré de voir tout ce qu'elle a fait. En l'espace de même pas un mois, elle a liquidé son appartement qu'elle a sous-loué, alors qu'elle n'avait pas le droit. Elle a vendu tous ses meubles. Mmh. Elle est vraiment venue pour un rien, alors que maman avait de très belles choses. Elle a tout enlevé. Maman n'avait plus rien. Elle n'a plus rien. Elle ne possède plus rien du tout. C'est elle qui détient son chéquier aussi.
Sans vous concerter ? Sans vous concerter ? Elle a fait tout ça sans vous concerter ?
Elle ne m'a pas concertée du tout.
Et vis-à-vis de votre mère, est-ce qu'elle elle en avait parlé ? Est-ce qu'elle a parlé avec votre maman ? Est-ce qu'elle a eu l'accord de votre mère de faire tout cela ? Ou c'est vraiment elle qui a décidé toute seule de...
Elle a décidé toute seule après mon fils qui a été... Oui, maman, pour aider un petit peu. Mmh. Mais il a été tellement écœuré qu'il a tout laissé tomber. Et maman, en fin de compte, a tout accepté parce qu'elle a peur de ma soeur. Parce que c'était elle qui a pris tout en main. Et maman, comme elle s'est sentie tellement démunie, puis tellement
ouais, je comprends.
Privée de tout, qu'en fin de compte, elle a accepté sans vouloir accepter. Or maintenant, elle se retrouve dans une maison de retraite. Et c'est intolérable, insupportable, vous ne pouvez pas savoir. Dès qu'elle est arrivée dans cette maison de retraite, on lui a enlevé son déambulateur. Elle passe de son lit à un fauteuil roulant, qui n'est même pas mécanisé, rien. Et on la met quand on veut dans son lit, quand on veut dans son fauteuil. Et on la laisse des fois au milieu d'un couloir toute seule comme ça, en attendant qu'on veuille bien venir la chercher. Quand on l'emmène au réfectoire, on la met dans une table où elle reste devant des heures, où elle est toute seule. Là-bas, où elle se trouve, personne ne parle. On n'a pas le droit de parler. Le personnel, il rentre dans la chambre, il ressort dans la chambre, il ne vous dit pas un mot. Rien. C'est le silence complet. Mmh. Par contre, vous entendez, moi qui appelle ma maman, enfin qui appelle ma maman 4 fois par jour, j'entends des horreurs au téléphone. J'entends des gens qui n'ont pas leur place dans cette... Ce n'est pas leur faute, j'accuse pas ces gens. Mais ils n'ont pas leur place dans cet établissement. J'entends des gens qui, pardonnez-moi l'expression, belles, comme des animaux, crient, comme on crie dans des maisons, pour des gens qui ont perdu carrément la tête. C'est horrible. Maman vit dans ce milieu. Et j'assiste à ça au téléphone. Et je peux vous dire que c'est horrible.
Je peux imaginer votre souffrance, votre sentiment d'impuissance. Mais que faire ? Que faire ?
Je me sens coupable, vous voyez. Oui. Je culpabilise beaucoup parce que j'aurais tant que ma maman soit avec moi. Je suis dans la capacité du fait de ce que j'ai. Et j'ai pas une maison qui est adaptée non plus. Et quand je pense que la personne qui l'a mise dans cette maison, elle a une maison de plein pied, avec des portes-fenêtres qui s'ouvrent, sur une terrasse et tout, où maman aurait pu être heureuse pour les dernières années qu'elle a à vivre. Je trouve ça tellement injuste.
Vous avez probablement pensé à des solutions, Myriam. Est-ce que vous en avez, vous ?
Moi, comme je vous disais, j'aurais aimé prendre ma maman.
Alors, justement, est-ce que c'est possible, au-delà hein, de votre handicap à vous, est-ce que c'est possible hein, est-ce que vous pouvez projeter votre maman avec vous, avec une aide médicale qui viendrait à domicile, avec votre fils peut-être, si de temps en temps qui passerait, puisque manifestement, vous avez un cocon familial proche. Est-ce qu'il y a une possibilité, néanmoins matérielle, pour vous, sans vous brider, ne vous bridez surtout pas, est-ce que c'est possible ?
comme je vous le disais, j'ai une maison qui n'est pas du tout adaptée à recevoir maman avec un fauteuil roulant, puisque maintenant, elle n'a plus de force. On ne lui fait pas de rééducation, on ne lui fait plus rien. Dans cet établissement, ils ne veulent personne de l'extérieur.
Vous êtes en maison, c'est ça ?
Moi, je suis en maison, oui.
C'est une maison avec des escaliers ?
C'est une maison avec un étage.
Un étage.
Oui, et avec le rez-de-chaussée.
On imagine, est-ce que le rez-de-chaussée peut être aménagé pour recevoir ? Vraiment, je vous ai dit, on ne bride pas l'imagination. On part du principe que c'est possible que votre maman arrive. On vous annonce qu'elle arrive demain. Qu'est-ce que l'on peut éventuellement aménager, modifier ? Est-ce que vous l'avez projeté, ça ?
Non, je n'ai pas projeté ça parce que dans ma maison, pour vous situer, j'ai une cuisine qui est petite.
Oui.
Et sinon, j'ai une salle qui est normale. Donc, il n'y a pas, disons, il n'y a pas de coin où on puisse faire la toilette. Il n'y a pas de coin vraiment adapté pour, disons, faire éventuellement comme une chambre, quoi. Et c'est ça qui pose un problème, un gros problème.
Oui, parce que j'étais en train de me dire que si on ne bridait pas l'imagination, d'imaginer de réhabiliter le rez-de-chaussée avec des travaux, avec des aides possibles hein, pour pouvoir justement recevoir votre mère, rester auprès d'elle. C'est pour ça que je disais quelles sont les solutions possibles hein, face à cette maltraitance, puisque c'est de ça dont vous parlez.
Clairement. Oui, c'est la maltraitance, parce que bon, elle est tellement privée. Elle en est arrivée au point où elle ne pense qu'à une chose, c'est à mourir.
Oui, non, c'est pas...
Et elle est en train de mourir. Alors, je vois aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de mal à la voir, elle en est arrivée qu'elle ne veut plus parler.
Ah.
Elle a beaucoup de difficultés quand elle parle à parler. Je ne comprends pas. En plus, on ne lui met pas son téléphone avec le haut-parleur, et si elle n'a pas le haut-parleur, elle n'entend pas. Mmh. Elle ne veut plus communiquer, ça ne sert à rien.
Oui, ça, c'est pas bon, elle, effectivement. Quand on...
Elle ne veut plus parler là-bas, elle ne parle pas du tout au personnel, parce qu'il ne lui parle pas. Donc, quand je l'entends des fois au téléphone, quand j'arrive à l'entendre, elle dit toujours « merci ». Merci madame, merci madame, merci madame, alors qu'on ne fait rien. C'est horrible. La plupart du temps, on ne lui met même pas sa télévision parce qu'elle ne peut même pas mettre sa télévision. On ne lui met pas. On ne peut plus lui donner de livres. Elle lisait beaucoup. Maman lisait beaucoup.
Mmh.
Elle lisait beaucoup, elle écoutait beaucoup d'opéra, de grande musique. On ne veut plus rien lui mettre de tout ça. On lui donne des revues à lire, et à regarder.
Myriam, et elle a changé de centre, tout simplement ? Est-ce que c'est envisageable ?
Bah, j'aurais aimé que ce soit envisageable. Le problème, c'est qu'il y a un manque d'argent et les établissements autres sont beaucoup plus chers. Elle a été mise dans cet établissement parce que c'était le moins cher. Et bon, seule ma sœur paye un petit peu. Moi, je ne paie rien parce que je suis au minimum social. Et donc, je ne paie rien.
Oui, parce qu'idéalement, si elle sous-loue, si votre sœur sous-loue l'appartement...
Ben, c'est terminé maintenant. Tout est terminé.
Elle
n'y a plus
rendu...
rien. Tout n'y a plus rien. Ça a été sous-loué pendant un mois peut-être. Et tout, il n'y a plus rien du tout. Maman n'a plus rien. Elle n'a plus rien, elle ne possède plus rien du tout.
Oui, oui.
Et comme elle n'avait pas d'argent de côté, rien, il n'y a plus rien du tout. C'est ma sœur qui est entre les mains. Tout ce qui a été vendu, dont je n'ai pas du tout eu quoi que ce soit. Je ne sais pas où, qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'il y a comme argent, je ne sais rien. On m'a pas mise au courant de rien, de mettre au courant de rien. Elle détient son chéquier, je ne sais pas ce qu'elle fait de l'argent, j'en sais rien.
Qu'est-ce qui s'est passé avec votre sœur pour qu'il y ait cette rupture ?
Et moi, je veux dire qu'avec ma sœur, il n'y a jamais eu grand-chose. Parce que, bon, pour être très très bref, j'ai été reprise dans la famille, j'avais 14 ans, et ma sœur, puis j'ai un frère aussi. Ma sœur, c'est une demi-sœur. Et j'avais un frère qui, malheureusement, est décédé. Et j'étais reprise dans la famille, moi j'avais 14 ans. Et j'ai jamais été acceptée par mon frère et ma sœur. Je suis arrivée comme le petit canard noir. Et donc, il n'y a jamais eu quoi que ce soit vraiment entre ma sœur et moi. Et puis, maman,
oui.
Je suis restée longtemps avec elle. Pas très longtemps, mais je suis restée quelques années avec elle. Puis après, elle est venue beaucoup m'aider quand moi j'ai eu des gros problèmes de santé. Et je crois que là, il y a eu aussi un gros problème aussi de jalousie, peut-être. Et puis j'ai été élevée par mes grands-parents paternels. Et mon grand-père, qui est avec ma grand-mère, ma grand-mère a eu un fils. Mais mon grand-père, c'était un remariage, n'a pas eu d'enfant. Et comme il m'a élevée, j'étais toute petite, il me considérait comme sa fille. Donc quand mes grands-parents sont décédés, mon grand-père est parti le dernier. C'est moi qui ai eu l'héritage de mes grands-parents.
D'accord.
Et ça n'a pas été accepté de ma famille. On a coupé les ponts avec moi, que ce soit ma sœur qui a cherché des histoires, avec ma belle-sœur aussi. Ils ont cherché des histoires quant à un terrain qu'on avait acheté à mes grands-parents. Et puis c'est pareil, des enfants du côté de mon papa, que j'ai vu tous naître. Tout le monde a fermé la porte, sans rien me dire. Plus personne ne m'a regardé. Alors que j'étais même pas au courant que mon grand-père me mettait son héritière.
Donc ça a été le début de la fin.
C'était le début de la fin. Mmh. Voilà. Et ma soeur m'en veut toujours de tout ça, alors que j'y suis pour rien. J'ai essayé plusieurs fois de reprendre contact avec elle en lui disant que c'était pour maman qu'il fallait faire un effort. Elle n'a jamais voulu.
Pensez-vous qu'elle soit au courant des conditions dans lesquelles se trouve votre mère ?
Pour elle, maman est très bien où elle est. Quand elle va là-bas, comme par hasard, il n'y a jamais de bruit, il n'y a jamais rien. J'ai plusieurs fois téléphoné quand elle se trouvait là-bas. Comme par hasard, je n'entends pas les bruits que j'entends certaines fois quand je l'ai au téléphone, maman. Comme si on mettait de côté certaines personnes.
Myriam, est-ce que vous avez la possibilité d'aller la voir ? Même si j'ai bien compris que vous étiez dépendante, mais est-ce que vous avez la possibilité de passer la voir, quand même ?
Je suis allée la voir une fois. J'étais la voir une fois en maison de convalescence. Et j'étais une fois là-bas, parce que j'ai beaucoup de mal à me déplacer. Pour aller là-bas, c'est très loin de l'établissement où on doit se garer. Pour moi, c'est très difficile. Et puis, je dois vous dire que lorsque j'ai revu maman, quand elle était en maison de convalescence, à cause de ce virus, je ne l'avais pas vue depuis déjà un certain temps.
Ah ben oui.
Puisque depuis qu'elle venait plus, parce qu'elle venait tous les jours à la maison, et depuis qu'elle ne pouvait plus venir, moi j'y allais le dimanche. Je prenais un taxi, j'y allais le dimanche, mais je n'étais pas dans l'état où je suis. Mon état s'est énormément aggravé du fait de ce que vit maman. Et lorsque j'ai revu maman la première fois, je n'ai pas reconnu ma maman. Ma maman était une très belle femme. Lorsque je l'ai revue, c'était devenue une vieille femme toute ridée. C'était horrible à voir.
Donc en fait, vous n'y retournez pas parce que c'est difficile pour vous.
C'est difficile pour moi de par mon handicap que j'ai. Et je souffre beaucoup, comme maman souffre beaucoup, parce qu'elle n'arrête pas de me dire « J'en ai marre, je veux mourir, je ne pensais pas que je finirais dans ces conditions-là. » J'en veux plus. Et moi, de mon côté, je suis pareil. Je veux plus. Je veux plus supporter la mort comme ça.
Je suis vraiment désolée. Désolée pour vous. Désolée pour votre maman. C'est malheureusement, vraiment, je suis là en train de dire, mais quelle peut être la solution ? Est-ce qu'il y en a une ? Est-ce que Est-ce que c'est de la sortir? Est-ce que c'est que vous puissiez être un peu plus proche, de la voir plus souvent malgré tout, pour lui apporter du soutien? Parce que ça vous ferait du bien aussi, certainement. De vous rapprocher, le temps de... Le temps de, voilà, le temps de profiter encore de votre maman. Vraiment, c'est de se dire, il ne faut pas se brider, il ne faut pas se retenir, il ne faut pas s'interdire les choses. Et vraiment trouver une ou des solutions pour pouvoir passer du temps avec votre mère, que manifestement vous aimez énormément. Donc,
Maman, je supporte pas d'avoir comme ça, mais je supporte pas avoir qu'on puisse être aussi indifférent avec des personnes et quand on rentre dans une chambre, même pas leur dire un petit mot. Je vois maman depuis quelques jours, elle saigne beaucoup du nez. Et ce matin, elle me dit que son drap était tout trempé de sang. Elle a même pas de sonnette pour appeler la nuit. Et quand je téléphone pour demander pour si on veut bien aller la voir pour lui mettre sur son haut-parleur ou n'importe, souvent on ne me répond pas. Souvent, on est très désagréable avec moi. Parce que moi, je ne compte pas. Il n'y a que ma soeur qui compte là-bas. Elle est très bien vue là-bas. Moi, je ne compte pas. Et elle, pour elle, tout se passe très bien. J'ai quelqu'un qui est très proche de moi, qui est allé voir maman dernièrement.
Oui.
Et cette personne a demandé à une personne qui était rentrée dans la chambre à maman, qui était venue chercher des revues. Elle a demandé à cette personne qu'est-ce qu'elle pensait de l'établissement. La personne lui a répondu. Moi, j'ai la chance encore de pouvoir me déplacer. Elle se déplace avec un déambulateur, cette personne. J'ai la chance de pouvoir me déplacer avec un déambulateur. Mais elle lui a répondu, on m'a dit, puisque je me déplaçais, que je n'avais qu'à me débrouiller toute seule. Et comme elle disait, de toute façon, on est ici pour mourir.
Votre maman est tombée deux fois du lit.
Oui.
Quelle était finalement la solution pour la protéger, hormis de la mettre dans cette EHPAD? Est-ce qu'il y en avait d'autres? Est-ce qu'il y avait d'autres choix possibles?
Moi, je pense que ce qui aurait été bien, mais c'était une question... C'est toujours pareil, c'était une question de moyens. Ce qui aurait été bien, c'est qu'elle puisse rester chez elle avec des aides. Maintenant, elle est tombée la nuit. Et que quand elle s'est retrouvée chez elle la deuxième fois... Un lit médicalisé avait été mis chez elle avec des barres.
Et elle est tombée quand même.
Elle est tombée quand même parce que, d'après ce que j'ai pu comprendre, elle a été au bout de son lit. Elle n'a pas dû supporter d'avoir la barre sur le côté. Et puis c'est là qu'elle est tombée.
Oui. Très, très compliqué tout ça. Hein. Vraiment.
Oui, c'est très compliqué, mais... Par l'intermédiaire de votre émission, je voulais faire passer quand même ce message que dans les maisons de retraite, c'est pas comme on entend les publicités. Ce sont des maisons privées. Mais quand on a affaire à des maisons publiques, on peut pas savoir ce qui s'y passe. Mais c'est horrible. Les personnes qui s'occupent de nos parents, de nos grands-parents, ils ont quelque part quelque chose d'inhumain. C'est pas normal qu'on rentre dans des chambres et qu'on en sorte sans dire un mot. Je sais pas, mais dire un petit mot à quelqu'un, c'est quand même pas grand-chose. On n'est pas.
Alors j'entends Myriam, ce que vous nous dites, et forcément, je me fais l'avocat du diable en vous disant que tous les EHPAD, toutes les maisons de retraite ne se ressemblent pas. Et c'est en cela que je vous disais, est-ce qu'il y a quand même moyen de la mettre ailleurs, même si effectivement, finalement, si on choisit... Si on met ça sur une balance, qu'est-ce que vous préférez ? La mettre loin, mais dans un EHPAD qui est beaucoup plus sûr, même si c'est très loin, ou la laisser là où elle est, avec ce qui se passe en ce moment ? qu'est-ce que vous préférez vraiment. C'est, j'ai le sentiment que il y a encore vraiment beaucoup de possibilités pour pouvoir sortir votre mère de cette situation, mais que tout n'a pas été encore exploité. Et c'est peut-être ce sentiment de culpabilité-là qui... C'est peut-être pour ça que vous avez ce sentiment de culpabilité aussi, vraiment. Et puis vous n'y êtes pour rien. Vous n'y êtes pour rien.
Bien sûr que moi, je culpabilise beaucoup parce que je voudrais tellement que ma maman soit avec moi pour pouvoir pas la laisser comme ça. C'est pas... Ma maman, vous voyez, elle a été avec sa maman jusqu'au dernier moment. Elle est restée avec elle jusqu'à son dernier moment. Et maman a aidé beaucoup de personnes. Elle m'a aidé moi, mais elle a aidé beaucoup de personnes aussi. Et je trouve que c'est tellement injuste de voir ce qui lui arrive là.
Je pensais à quelque chose, Myriam. Vous travaillez encore ou est-ce que vous travaillez à mi-temps par rapport à votre handicap? Comment vous vivez de quoi?
J'ai travaillé un an de toute ma vie. On n'est pas travaillé parce que en accord avec mon mari, je souhaitais travailler jusqu'à temps qu'on ait des enfants, mais je souhaitais élever mes enfants. Mmh. Et ça ne s'est pas passé comme ça.
Je vous pose cette question parce que est-ce que vous pourriez envisager de déménager, puisque cette maison n'est pas accessible à votre mère? Vous voyez, c'est encore une possibilité de déménager et de trouver donc un endroit où là, vous pouvez recevoir votre mère. Je pense comme ça, je me dis, ça peut être aussi une solution. Puisque vous, votre maison n'est pas aménageable, donc plutôt que... Enfin, ça peut être une idée aussi, de profiter des derniers moments avec votre maman en étant ailleurs que dans cette maison, qui ne peut pas recevoir votre mère en l'état.
Disons que ça pourrait peut-être être envisagé, mais le problème, ce sera toujours on reviendra toujours au même, ce sera une question de finance. Parce que comme vous êtes au courant, certainement, les maisons de maintenance ont énormément monté en prix aussi. Celle que j'ai à l'heure actuelle, je pense qu'elle ne pourra pas suffire pour que je puisse avoir autre chose. Enfin, je sais pas, c'est à se renseigner, mais
oui.
Je pense qu'il y aura quand même un gros problème au niveau argent.
Encore une fois, ne vous limitez pas, ne vous bridez pas, et projetez-vous avec des solutions possibles. Et je reste convaincue qu'il y a des choses vraiment envisageables. En tout cas, un grand merci vraiment, Myriam, pour votre confiance. Un grand courage pour ce que vous traversez ainsi que votre maman. Et j'espère que vous nous rappellerez pour nous donner de meilleures nouvelles.
Oui, bien sûr. Je vous remercie de m'avoir écouté.
Mais c'est normal, hein, c'est normal. La Libre Antenne est votre émission. Et d'ailleurs, je rappelle que vous pouvez nous appeler au 3921. Il y a de la place pour venir également partager vos histoires de vie. Prenez bien soin de vous, Myriam.
Je vous remercie beaucoup et je remercie toute votre équipe. Et puis, j'embrasse Olivier Delacroix qui est en vacances à l'heure actuelle.
Oui,
mais que je l'écoute beaucoup parce que je suis quelqu'un qui ne dort pas. Je dors une demi-heure, une heure par nuit. Quand je dors, je n'arrive plus à dormir. Depuis 3 ans.
Bon. Écoutez, en tout cas, vraiment, on lui transmet votre bonjour et courage, Myriam.
Je vous remercie beaucoup.
Je me permets de vous embrasser. Au revoir. Nous avons reçu des SMS pour... le témoignage de Myriam, et je vais lire celui de Marc. Myriam, si vous nous écoutez, Marc vous dit « Les aides médicales sont très efficaces et sympas. Son médecin trouvera une solution matérielle. Il faut lui en parler. » Bérangère et Anita, malheureusement, j'ai bien vu vos SMS, mais ils sont arrivés pendant en fait la musique. Donc voilà, j'ai pas pu les lire en direct. Nous accueillons tout de suite Paul. Bonsoir Paul.
Bonsoir Sana.
Bienvenue à la Libre Antenne.
Je vous remercie de me donner la parole sur les ondes RGN.
Écoutez, je le répète jamais assez, la Libre Antenne est votre émission.
Merci. Donc, je viens d'écouter le témoignage de Myriam.
Oui.
C'est un autre sujet, hein, mais bon, ma mère est aussi à maison de retraite et bon, c'est pareil, elle souffre énormément, quoi. Et c'est pas du fait de maltraitance. Enfin, il y a une maltraitance institutionnelle, comme partout, mais bon, là, elle est. C'est un légume, quoi.
Ah.
Enfin, bref. Donc, en fait, d'abord, je voudrais commencer par. Adresser mes condoléances aux proches de Charlotte Valandré, qui est décédée aujourd'hui à l'âge de 53 ans.
Oui.
Voilà, parce qu'en fait, ces gens-là...
Je me joins à vous, Paul.
Ouais. Parce qu'en fait, ces gens-là, surtout les chanteuses, les acteurs, les actrices, ce sont ces gens-là ma vraie famille, pour moi. Donc à chaque fois qu'il y a un décès comme ça, bon, ce qui a été le cas pour plusieurs personnes... chanteuses très connues, hein, comme France Gall, par exemple. Michel Berger, la fille aux yeux d'or aussi, qui a eu, vous savez comment, son nom m'échappe du coup. Là.
Marie Laforêt,
voilà. Bon, ben, à chaque fois, c'est un crève-cœur pour moi, quoi.
Oui, le sentiment.
Bon, voilà, c'est grâce à eux que j'ai réussi à tenir le coup jusqu'ici, en fait. C'est grâce à eux, surtout à eux. Les musiques des années 70... n'a pas fait mieux depuis.
Oui.
Enfin, moi, je suis de cette époque-là, donc... Mais même encore, sur beaucoup de radios FM, on entend sans arrêt des chansons des années 70, hein. Pratiquement que ça, même.
Ah oui.
Donc, c'est bien, c'est des chansons intemporelles. Hein, donc,
Absolument. Et c'est vrai qu'il y a
Le problème, c'est que les... Ce que je trouve triste par rapport à ça, c'est que les hommes politiques, ils n'ont pas l'air de les entendre, notamment les chansons à texte.
Quel est votre chanteur préféré, Paul? Si vous en
avez
un.
Moi, mes idoles de toujours, c'était Paul McCartney et John Lennon.
Ah oui, d'accord.
Bon, j'en ai eu plein d'autres. Hein,
individuellement bon, ou les Beatles individuellement.
Ouais. Les deux du groupe, et puis bon, il a créé le... Après les Beatles, Paul McCartney a créé les Wings.
Mm-hmm.
Il a fait d'ailleurs une chanson avec Michael Jackson.
Say, absolument. Oui.
Enfin bref, voilà, quoi. Donc voilà, parce que moi, ça fait maintenant 17 ans que je suis en dépression.
En dépression Qu'est-ce
ouais,
qui vous arrive
ouais. Chronique, hein. Ben en fait, ça a commencé, c'est une longue histoire. En fait, c'est par rapport... bon, je suis tombé en longue dépression quand j'ai appris le suicide de mon ex-compagne, avec laquelle je m'étais séparé déjà depuis plusieurs années, hein, parce que je l'avais quittée en 90. Elle est décédée en 99 par noyade la nuit dans la rivière Mayenne. Donc j'ai mis énormément de temps, et là ça a été l'anéantissement pour moi, parce que je ne m'attendais pas à une nouvelle pareille. Et donc, voilà, j'ai mis plus de 3 ans pour faire le deuil. Bon, je ne l'ai pas encore fait tout à fait, mais parce que j'y pense. Moi j'ai eu qu'elle dans la vie, hein, donc voilà. Et comme par la suite, je suis resté célibataire depuis, hein, ça fait 32 ans maintenant que je vis seul, un peu en ermite. Hein. Et voilà quoi. Ben, mes anciens amis, bon, j'avais pas mal d'amis quand j'étais adolescent. J'en avais une vingtaine en tout, entre deux villes.
Mm-hmm.
Moi, mes amis, ben, ils sont tous mariés avec des gosses. Après, bon, ben, c'est fini, je les ai plus revus. Quoi.
Pour quelle raison?
Ben, parce que là, on change de vie, parce qu'on passe des copains, des copines, les gens se marient, on tourne la page. C'est une page qui se tourne. Les gens, ils ont envie d'avoir des enfants, créer un foyer. Les amis, bon, ben voilà, c'est fini, hein. C'est comme ça dans beaucoup de... Et en plus, comme moi, j'étais resté célibataire à cette époque-là.
Oui.
Moi, j'étais célibataire jusqu'à l'âge de 30 ans. Célibataire endurci.
Mm-hmm.
Mais, si vous voulez, les couples, en général, vos anciens amis qui sont en couple, ils ne vont pas vous inviter si vous êtes resté célibataire. Vous savez pourquoi?
Ah, dites-nous pourquoi?
Bah, vous savez comment sont les gens, ils ont pas... Bon, déjà, ils préfèrent avoir, parce qu'en général, bon, un couple d'amis peut inviter un autre couple d'amis. C'est-à-dire que, bon, voilà, la femme discute avec l'autre femme, et puis les hommes entre eux. Mmh. Mais en plus, il y a le fait que certains sont jaloux, et ils ont peur que le célibataire vienne piquer leur conjointe, quoi, vous voyez. Il y a ça, parce que ça existe. Donc,
alors, ça existe,
donc,
mais...
c'est la méfiance, ils se méfient. Et puis, c'est pas intéressant pour eux d'inviter un célibataire, ils préfèrent inviter un couple.
Mais les vrais amis ne se méfient pas. Enfin, c'est... Si on vous connaît bien et qu'on connaît vos valeurs, vous iriez, Paul, piquer, entre guillemets, la compagne d'un de vos amis? Est-ce que vous le feriez,
non,
vous?
Moi, non. Mais moi, je suis pas...
Ouais.
Moi, j'ai des principes moraux. Non, ça ne me viendrait même pas à l'esprit. Mmh. Et non, moi, je respecte ça. Et non, moi, si j'avais été marié, moi, je suis fidèle en amitié. Ce qui n'est pas le cas des gens en général. L'amitié a ses limites aussi. Hein.
Alors,
ça, je peux en parler, mais...
Est-ce que vous savez, au bout de combien de temps est-ce qu'on développe vraiment une amitié? À partir de combien d'années est-ce qu'on dit qu'on a un ami, une amie?
Alors, ça peut être très variable.
C'est 20 ans.
Oui, c'est
les
ça.
Les vrais
20
amis,
ans,
c'est 20 ans. 20 ans d'amitié. 20 ans de relation.
Oui, c'est ça. Ouais, je suis d'accord avec vous.
Aujourd'hui, où sont vos amis, Paul?
J'en ai plus.
Plus du tout.
Ah non, plus du tout. J'ai des relations, j'ai quelques relations.
D'accord.
Ce ne sont pas des amis, ce sont des connaissances, des relations, avec qui le courant passe bien, certains. Mais moi, j'ai le défaut d'être un témoin dérangeant. Bon, parce que quand je raconte mon histoire, les gens ils prennent la fuite. Hein. C'est un peu la politique de l'autruche, quoi. Bon, c'est un peu une spécialité française. Hein.
Non. Mais non.
C'est l'impression que j'ai, moi.
Vous êtes, j'aime beaucoup parce que vous avez beaucoup de clichés. Alors moi, j'adore les clichés, mais pareil, Paul, vous êtes... Il y a beaucoup de clichés qui sont intéressants chez vous. Mais non, ils ne prennent pas tous la fuite en France. Et ce n'est pas la politique de l'autruche non plus. C'est très intéressant. En tout cas, je vous garde. On va se retrouver juste après les informations d'Alexandre, si vous êtes d'accord. Ça vous va? Et puis, on va continuer à échanger là-dessus sur en tout cas votre conception de l'amitié, des psys, et puis de plein de choses, je suis certaine. On se retrouve juste après les informations.
Europe 1. La libre antenne, Sana Blanger.
La libre antenne d'Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit et nous étions juste avant les informations d'Alexandre Lemaire avec Paul. Paul, vous êtes toujours avec nous?
Toujours là.
Fidèle au poste,
c'est ce que j'allais dire, vous m'avez précédé.
Paul, j'ai appris que vous aviez déjà appelé, que vous aviez eu Olivier Delacroix il y a quelque temps.
Oui, il y a été au mois d'octobre l'année dernière.
D'accord. Vous aviez évoqué donc ce deuil de votre ex. Alors, petite amie, compagne, est-ce que vous avez vécu avec cette personne?
Pardon?
Est-ce que vous aviez vécu avec cette personne?
Oui, 4 ans. Oui.
4 ans. Donc votre...
De 1986 à 1990, donc de l'âge de 30 ans à 34 ans, et on avait le même âge à peu près à 6 mois près.
Qu'est-ce qu'il vous avait conseillé? Quand vous l'aviez eu au téléphone, de quoi est-ce que vous aviez parlé?
En fait, on avait surtout parlé de mon parcours de jeunesse depuis notre retour d'Algérie en 1960.
D'accord.
Et ensuite, donc j'avais 4 ans et demi quand on est revenu. Et jusqu'à mon adolescence, quoi. Donc voilà, donc on a parlé des violences familiales. J'insiste sur le mot familial, parce qu'on parle presque toujours des violences conjugales, mais on parle beaucoup moins souvent des violences sur enfants. Or, il faut savoir que, j'ai vu deux articles de presse qui disent que chaque année, il y a entre 600 et 700 enfants qui sont tués par leurs parents.
Oui, non, c'est dramatique. D'ailleurs, je...
Contre 140 féminicides. Mais en fait, il y en a plus que ça. Je peux vous expliquer pourquoi il y en a plus que ça.
Alors, pourquoi ?
Si vous voulez, hein.
Bah, allez-y.
Enfin, vous savez que chaque année en France, ça je l'ai entendu, j'ai eu confirmation dans une émission de télévision, il y a 40 000 personnes qui disparaissent et il y en a 10 000 qu'on ne retrouve jamais.
Ah oui.
Et la plupart sont partis à l'étranger, sans première personne, mais il y a aussi des personnes et des hommes aussi, hein, des hommes et des femmes qui sont décédés. Et le problème, c'est que pour que quelqu'un soit reconnu décédé, il faut qu'il y ait un certificat du médecin.
Oui.
Et quand on ne retrouve pas les gens, ben on ne peut pas les déclarer décédés. Et parce qu'il y a des femmes et des hommes, moins, hein, mais surtout des femmes, on ne les retrouvera jamais. Parce qu'elles sont au fond de l'eau avec un... Ben, je suis désolé de vous en parler, mais c'est la réalité. Elles sont au fond de l'eau avec un lest ou elles sont dans les bois, dans les sous-bois, carbonisées, comme ça a été le cas de certaines personnes. Bon, moi, je vois ça dans les émissions criminelles, hein, donc réalité, quoi. Et d'ailleurs, mon frère fait partie des 30 000 personnes qui ont disparu et qui ont réapparu au bout de 14 ans, en ce qui concerne mon frère cadet. Et on ne l'avait pas revu pendant 20 ans. Et donc, pendant cette période de 20 ans, il a disparu totalement pendant 14 ans. On ne savait pas où est-ce qu'il était. J'ai fait faire une recherche de l'intérêt des familles qui n'a rien donné.
Ah oui.
Enfin, bref, voilà. Quoi.
Il est
réapparu par lui-même, en fait, parce qu'il avait bien réussi au Canada.
D'accord.
Et il y est depuis 1994. Et il nous a expliqué pourquoi il n'a pas donné de nouvelles pendant 14 ans.
Et là, pour quelle raison ?
Ah, parce qu'en fait, il ne voulait plus entendre parler de la famille ni de la France.
D'accord. Est-ce que vous connaissez
et
le...
Il a repris contact, en fait, parce qu'il a, comme j'ai expliqué dans sa première lettre, qu'il a écrite à ma mère, parce qu'il a bien, réussi là-bas, il travaille dans le cinéma, il gagne très très bien sa vie.
C'est bien.
Hein, il est régisseur général, donc je suis content.
Oui, on est content pour lui. Et d'ailleurs, Paul, est-ce que vous connaissez le numéro j'ai oublié le terme exact, quand on est témoin, pardon, de maltraitance sur les enfants, est-ce que vous connaissez le numéro qu'il faut composer, puisque manifestement...
Ah oui,
vous
bien sûr.
C'est le combien ?
39-19 pour les adultes et 119 pour les enfants.
Merci.
Il n'y a pas plus tard que tout à l'heure, à 20h, sous mes fenêtres, il y a eu une violente dispute entre deux jeunes, apparemment des adolescents. Et j'ai appelé la police. Parce que ça durait depuis un moment et j'avais peur que ça dégénère. Voilà. Alors moi, je suis descendu de chez moi.
Ouais.
J'ai fait le tour. Et donc, jusque la police arrivait, je les ai arrêtés. Je dis, c'est moi qui vous ai appelé. Et bon, voilà, ils sont allés sonner. Hein. Oui, c'est la propriétaire, la mère, c'est une famille d'origine albanaise, d'après ce qu'on m'a dit. Et ils sont pas rentrés. Hein. Et donc, c'est la mère, je l'ai aperçue, qui leur a ouvert la porte, qui a parlé. Et par contre, ils ont pas demandé à voir les deux jeunes, parce que et ça, c'est une faute. Parce que moi, c'est incroyable. J'aurais dû, parce qu'ils ont mis ma parole en doute.
Oui, malheureusement. Et Paul, est-ce que vous aviez un message à passer aux auditeurs ou à...
Un message à passer ?
Oui.
On aurait plein de messages. Parce qu'en fait, je vais vous dire, moi, ça fait plus de 11 ans que je me bats contre les violences familiales tout seul dans mon coin. D'accord ?
Oui.
Moi, j'ai demandé à adhérer à deux associations caritatives. Comment ça s'appelle ? Qui s'occupe de la maltraitance infantile.
Il y en a tellement.
Il y en a, la plus connue, c'est La Voix de l'Enfant.
Oui.
Enfance et Partage. Donc, j'ai été contacté pour devenir adhérent. Ils ne m'ont jamais répondu. C'est ça la réponse. Et là, dernièrement, j'ai appris qu'il y avait aussi de l'Enfant Bleu. Alors, j'ai fait pareil. J'ai contacté l'Enfant Bleu.
Oui.
Bon, là, ils m'ont dit qu'ils me rappelleront, mais qu'il faudra attendre un moment, parce qu'ils ont... En plus, c'est l'été, c'est les vacances, donc... Je vais voir ce que ça donne.
Bien sûr. Bon,
en plus, moi, je serai, d'après ce qu'ils me disent, je serai dispensé de la cotisation, qui est normalement de 25 euros par an pour un retraité. Mais que, étant donné que j'ai été moi-même enfant martyr, tenu de payer la cotisation.
C'était le thème d'hier, d'ailleurs. C'était la violence, c'était sur la maltraitance. Voilà, il y avait deux témoignages qui parlaient d'enfants et de maltraitants. C'était vraiment très, très, très émouvant. Merci, Paul, en tout cas, de votre appel. Merci.
Enfin, bon, moi, ce que je voulais, c'est que vous essayiez de me faire comprendre, enfin, essayez de me expliquer quelle solution que j'ai pour m'en sortir. En plus, moi, je vis dans une ville que je déteste. Et je souffre de stress post-traumatique en plus de la dépression.
Eh bien... Je dirais que sagement, il faudrait peut-être, sans être dans l'injonction, mais retourner voir un psy, avec lequel surtout vous vous entendez bien, parce que manifestement, juste tout à l'heure, vous nous disiez qu'ils avaient tendance à prendre la fuite quand vous arriviez dans leur cabinet. Mais c'est vrai que c'est très important de se sentir à l'aise avec son thérapeute pour pouvoir...
c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, je parlais pas des psychiatres. Un psychiatre, j'en ai vu un sur une période pendant 8 ans, sur une période de 11 ans. Bon, ça servit à rien.
Ou l'hypnose, Paul, puisque vous souffrez de SSPT. Non, mais vous nous disiez que vous souffrez d'SSPT, de syndrome post-traumatique. Donc, ça peut être également très intéressant pour vous comme piste, c'est de faire de l'hypnose.
On m'a déjà proposé, parce que j'ai eu l'occasion de voir.
Eh oui.
Une psychologue.
Ça marche très bien, vous savez. Ou de l'EMDR également.
Oui, l'EMDR, mais...
Paul.
Mes frères ont réussi plus ou moins à se reconstruire.
Eh bien, justement, là
vous voyez... Oui, justement, mais parce qu'eux, ils ont eu la meilleure des thérapies qui soit, l'expatriation. Voilà. Mon frère aîné s'est expatrié en Israël pendant 8 ans, il a été obligé de revenir.
Oui.
Et mon frère cadet, il est donc à Vancouver depuis 1994.
Bon, donc Paul, moi j'ai quand même le sentiment d'entendre une personne qui sait exactement quelles sont les solutions possibles. Donc si vous m'appelez pour me dire « Sana, donnez-moi un coup de pouce, un coup d'élan, bousculez-moi pour aller de l'avant », eh bien foncez Paul. Vous avez toute l'énergie, vous avez toutes les solutions en vous, vous avez toutes les réponses. Donc maintenant, agissez.
Oui, mais moi je me bats. Mais en fait, moi, je me bats surtout pour les autres, parce que, bon, moi, mon avenir, il est derrière moi. Mais je me bats pour les autres. Et donc, c'est pour ça que j'ai appelé la police tout à l'heure, parce que moi, je supporte pas de voir un couple qui se...
Je comprends.
Qui crève le chignon comme ça.
Et, je comprends.
Voilà, je porte ça. Moi, ma mère a vécu ça pendant 35 ans. Hein, donc, voilà, et sans qu'on puisse rien faire. Hein. En fait, c'est moi qui ai mis un terme au calvaire de ma mère, hein, donc en 93.
Donc, Paul, je peux compter sur vous
pour Je sais, là, j'ai envie prendre... de terminer la conversation. Hein.
Non, mais au-delà de ça, c'est surtout parce que c'est même pas terminer la conversation, c'est que pour vous, tout est extrêmement clair. Allez-y, foncez. Vous avez pour y arriver. D'accord ?
Moi, je peux pas avec mon stylo. J'ai écrit des tas de courriers à des hauts responsables. Jamais de réponse. Je n'ai pas de réponse. Sauf qu'il y a deux ministres, quand même, qui m'ont répondu.
Bon.
Moi, je suis pas...
Donc,
la deuxième fois, j'ai été censuré.
Donc, je disais, je compte sur vous, Paul, pour nous rappeler et nous dire, voilà, je suis parti, c'est fantastique, je m'éclate.
Je ne peux pas partir. Je suis coincé, ma situation est kafkaïenne et je suis dans une prison mentale, en plus. Hein, donc, voilà, par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, en plus, ça n'arrange rien, quoi. Non, puis mon défaut, c'est l'altruisme. Parce que moi, je pense beaucoup plus aux autres qu'à moi-même.
Alors, si vous pensez aux autres, il y a des personnes qui attendent également et qui souhaitent venir témoigner, passer à l'antenne, vraiment. Et je vous le redis, s'il vous plaît, allez voir un hypnothérapeute, faites de l'EMDR. Vous êtes vraiment proche de la sortie. Vraiment.
Je sais pas. Par contre, ce qui serait peut-être intéressant, c'est que je puisse contacter des personnes dans la région brestoise, dans le Finistère, qui aimeraient rencontrer aussi des gens qui ont subi des maltraitances infantiles. Alors j'avais voulu passer une annonce dans un journal local, hein, je ne vais pas le citer, avec 3 dates de parution. En fin de compte, j'avais mis l'annonce dans leur boîte aux lettres. Et en fait, les annonces ne sont jamais passées. Et en fait, c'était dans le but de créer une association locale par rapport aux enfants marins.
D'accord.
Voilà. Bon, c'était à l'époque un sujet tabou, hein, parce que à l'époque, ça n'existait pas, les violences sur enfants.
Paul, merci infiniment de votre appel.
De sujets tabous, hein.
Paul, merci infiniment de votre appel.
Il y en a d'autres qui attendent derrière.
Absolument.
Moi.
Vraiment. Je vous souhaite une très bonne soirée et bon courage. Parler Paul à qui nous dédicassons cette chanson avec Silly Love Songs. Et nous accueillons tout de suite, alors c'est Manon. Bonsoir Manon.
Oui, bonsoir Fana.
Bienvenue à la Libre Antenne.
Merci.
Qu'est-ce qui vous arrive Manon?
Alors, ce qui m'arrive, je vais avoir du mal à l'expliquer parce que je suis encore très bouleversée par l'histoire. En fait, hier vous parliez de violence.
Oui.
Et des fois, je me dis qu'on a l'impression de vivre de la violence, même quand elle n'est pas ni physique ni psychologique.
Tout à fait.
Parce qu'au final, c'est une simple histoire de rupture, on va dire. Mais pourtant, j'ai déjà connu des ruptures. Et c'est une rupture sur laquelle je n'arrive pas à passer le pas, ni le cap. Parce que je la vis comme quelque chose d'extrêmement violent, en fait. J'ai rencontré... il y a 2 ans de ça, une personne sur un site de rencontre. Pour la première fois de ma vie, je m'inscrivais sur un site. J'avais eu des histoires passées un peu compliquées, on va dire. Mmh. Donc j'avais mis à peu près 6 ans avant de me relancer. Et cette personne, ça a matché direct. On s'est rencontrés, quelqu'un... j'avais l'impression d'un effet un peu miroir, en fait. Quelqu'un, j'avais l'impression de... d'avoir les mêmes valeurs que lui au niveau familial.
Mmh.
Je voyais bien qu'on est très différents au niveau de la confiance en nous. C'était quelqu'un qui, dès le départ, on sentait quand même un ego sous-jacent assez puissant, mais qui est devenu très vite indispensable à ma vie parce que très amoureux, très enveloppant, qui a eu très rapidement un très bon contact avec mon fils, qu'il a vraiment pris sous son aile et qu'il a absolument très bien traité. Mon fils s'est très vite attaché à lui.
D'accord.
Très rapidement, cette personne est venue vivre chez moi. Et c'était idyllique, mais très idyllique, comme une histoire que je n'avais jamais eue dans ma vie. Parce qu'à chaque histoire, il y a toujours des choses qui fonctionnent plus ou moins bien. Ou des choses qu'on peut percevoir dès le départ en se disant « bon, on sait que là-dessus... » Mais là, pas du tout. C'était quelqu'un de très aimant, très très présent. C'est-à-dire qu'on était sur 200, 300 messages ou messenger par jour, même quand était dans la même maison en télétravail, on va dire.
Ah oui,
même à l'étage au-dessus, il m'envoyait beaucoup de messages. Il m'appelait tout le temps quand il était en déplacement. Très très présent, quoi.
Oui.
Et puis, au fil du temps, quelqu'un qui vivait, qui avait beaucoup plus de moyens que moi. Donc, j'ai eu un train de vie qui n'était plus le mien, tout d'un coup.
Mmh.
C'est-à-dire c'est-à-dire beaucoup de grands restos, de grands voyages, sans compter, voilà. Et puis cette personne, en fait, je voyais bien que, par contre, très rapidement, je me suis rendu compte qu'il avait été élevé en enfant roi, qu'il élevait aussi son fils comme ça. Mais après, bon, chacun a sa vie de famille et son éducation, et ça, on prend le packaging, j'ai envie de dire.
Oui.
Et par contre, je me suis très vite rendu compte que fallait aller toujours dans son sens, sinon c'était il supportait pas la frustration en fait. C'est-à-dire que on avait une vie super bien. Enfin, c'était quelqu'un de très positif, très joyeux tout le temps, mais très très joyeux, très exacerbé en fait. Très voilà, il arrivait à une soirée, on ne voyait que lui parce qu'il mettait tout de suite l'ambiance, même s'il connaissait personne, fallait qu'on le voie.
Ah.
Et par contre, si j'étais pas d'accord ou si je faisais une réflexion, mais c'était même pas une engueulade ou une dispute, hein, c'était ça me plaît pas, ou voilà, enfin avec ton fils, j'aimerais bien que ça se passe mieux parce que c'est compliqué, les deux enfants cohabiter sur des temps donnés ensemble. Donc voilà, qu'on trouve une harmonie, quoi. Là, tout de suite, il montait en pression, il était très impulsif et puis il pouvait partir comme ça. Donc, il y a eu deux gros clashs, on va dire, hein, qui sont partis de rien.
Mmh.
Où il a pris ses clics et ses claques et il est parti une première fois pendant un mois. Mais tout en gardant contact, en fait, en me disant qu'il m'aimait plus que tout, que j'étais la femme de sa vie. Donc ça, il le disait constamment toute la journée. Voilà. Et puis, même devant les gens, en fait, on allait en soirée, qui rencontrait mes amis ou que je sois avec ses amis, c'est une femme merveilleuse, j'ai jamais vécu ça avant. Et ses amis me confirmaient, effectivement, on n'a jamais vu notre copain comme ça, c'est super. Et moi, il me disait, j'ai jamais été amoureux comme ça, même pas de la mère de mon fils, j'ai jamais connu la jalousie alors qu'avec toi, je suis jaloux.
Comment vous vous sentiez avec tous ces témoignages?
Du coup, forcément, vous vous sentez un peu unique, quoi.
Ah oui.
Un peu exceptionnel, et c'était là sa force.
Mais ce que vous êtes.
J'ai envie de dire.
Oui.
Non, moi, je suis pas du tout exceptionnelle. Donc, mais par unique. Contre, je pense qu'il avait très vite cerné que j'avais un manque de confiance en moi. Donc forcément, quand on vous le répète toute la journée, ça rehausse l'ego, hein, pour être honnête. C'est plutôt agréable d'avoir des témoignages, parce qu'il était aussi bien tactile que aimant dans la parole, en fait.
Oui.
Chaque fois qu'on allait quelque part, c'était « regarder ma femme, elle est merveilleuse », c'était limite trop, en fait, parce que c'était gênant pour moi qui n'aime pas du tout me faire voir. Ça pouvait être gênant. Et puis, avec mes parents, pareil, une très bonne relation. Il m'a même demandé en mariage devant eux, sans me prévenir.
Ah oui.
Voilà.
Comment,
trop, quoi.
Comment vous l'avez vécu?
Et très rapidement,
la demande
d'un mariage compliquée pour moi parce qu'il y avait déjà eu un clash entre nous où il était parti un mois.
Voilà.
Et ce clash-là, pendant un mois, moi, je ne l'ai pas compris. Et tant que je ne l'avais pas compris, j'avais beaucoup plus freiné à son retour, même si j'étais très accrochée à lui. En fait, au départ, il y a peut-être eu un ou deux mois où il voyait que j'étais sur mes réserves. Et donc, il était très, très... il a mis la machine en marche, hein, on va dire. Et quand j'ai fait tomber les barrières, je pense que c'était déjà trop tard pour moi, en fait. Quand j'ai commencé à vraiment m'accrocher, j'avais perdu le jeu, on va dire. Hein. Parce que très rapidement, il est venu vivre chez moi.
Mmh.
Alors qu'on en avait parlé, j'avais dit, non, faut peut-être qu'on attende de mieux se connaître.
Ouais. Très rapidement, c'est combien de temps?
C'était 2-3 mois.
D'accord.
2-3 mois, donc très rapidement quand même. Moi, je n'avais pas vécu avec quelqu'un depuis plus de 6 ans.
Mmh.
J'avais fait ma vie avec mon petit garçon. On n'avait personne dans notre vie. C'était très étouffant d'un coup, en fait. Mais très agréable parce qu'il y avait ce côté-là, très enveloppant, très...
Dont vous aviez besoin.
Je fais tout à ta place.
Vous aviez besoin, oui.
Oui, tout à fait. Bon, je pense qu'on est tous pareils. Hein. Quand on a de l'amour, on le reçoit, quoi. Et dès qu'il est arrivé chez moi, il y avait quand même des petits signes qui, moi, mettaient la puce à l'oreille. C'est-à-dire, dès qu'il est arrivé chez moi, au bout de quelques mois, tout de suite, c'était « je vais te racheter ta part de maison, en fait, parce que, en fait, moi, je vis chez toi, mais parce que je lui avais demandé de partager le loyer, du coup. Il m'avait dit « ouais, mais moi, je vis chez toi, je verse un loyer, mais du coup, c'est toi qui capitalises et moi, je capitalise pas. » Donc, j'avais trouvé ça très étonnant dès le départ en me disant, mais quand je t'ai connue, tu étais en location, donc tu capitalisais pas plus que là, en fait. Oui, mais là, du coup, je te donne de l'argent à toi, donc tu capitalises. Et donc, très, très longtemps, il est revenu sur cet achat de maison. J'ai résisté en lui disant, ben non, pas pour l'instant. Donc après, on est parti sur, on va acheter une maison ensemble, on va construire ensemble, on va avoir un projet. Donc tous les jours, je recevais 10, 20 messages, regarde cette maison, viens visiter cette maison. Donc j'y allais.
Ouais.
Et moi, dans la maison, parce que forcément, je lui disais, cette maison-là, tu ne l'as pas choisie, celle où je suis. Et puis il me disait, bah oui, c'est vrai, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, moi j'ai besoin de ça dans une maison. Donc, les maisons qu'on visitait, bah, je disais, mais c'est bizarre, parce qu'en fait, là, tu veux acheter. Mais parce que dès qu'on visitait, c'était, ils disaient aux personnes, bah, on va l'acheter. Tu vas peut-être l'acheter, mais pas à moi, là.
Ouais.
Donc, je disais, tu vois, il n'y a pas le garage comme tu souhaites, il n'y a pas ci. Ouais, non, mais c'est vrai, tu as raison, bah, on va aller visiter une autre. Et puis, c'était comme ça pendant 2 ans. On a visité 20, 30, 40 maisons, je pense.
Ah oui. D'accord.
Donc, il voulait acheter une maison principale, puis après, c'était une maison secondaire. Un jour, c'était dans cette ville, le lendemain, c'était dans une autre. Donc, au bout d'un moment, j'étais un peu perdue. Je pense que je n'ai pas eu la force de lui dire clairement « je ne le sens pas
». Oui, parce que vous commenciez à sentir votre
non,
intuition.
Pas du tout. Non, pas du tout, parce que je pensais que c'était mes freins à moi, personnels, de ma vie d'avant, qui me ralentissaient, en fait.
Ouais.
Parce que je trouvais que, oui, il y avait des choses qui, moi, me mettait la puce à l'oreille sur notre relation. C'est-à-dire, je voyais bien qu'avec son fils, c'était un peu compliqué, qu'on n'allait pas aller sur des belles années quand l'adolescence allait arriver. Mais bon, je me disais, ça peut se passer, en fait. Si on est deux à tenir le choc, ça peut se passer.
Bien sûr.
Il y avait eu un premier truc. Dès qu'il était arrivé chez moi, il était arrivé le premier du mois. La première semaine, il avait reçu un appel. Il m'avait dit « Ah, c'est mon ex qui m'appelle, je la bloque. » Je lui ai dit « Comment ça, tu la bloques ?» Il m'a dit « Non, mais je la bloque, tu sais, elle n'est pas nette. » Et ça, ça m'avait mis la puce à l'oreille, en fait. J'avais dit « Mais t'as vécu combien de temps avec elle ?» Bah, 1 an, mais c'était comme ça, je ne vivais pas chez elle. T'es la première personne avec qui je vis, depuis la mère de mon fils.
Mmh.
Toutes les autres filles que j'ai eues, je n'ai jamais vécu avec. Voilà, il y a toi vraiment où je peux pas vivre sans toi. Donc, et puis elle s'est beaucoup accrochée, elle était gentille mais pas très maligne. Puis je me suis dit, ouais, c'est quand même bizarre de parler de son ex comme ça. Donc je lui ai dit, mais si elle t'appelle, elle a peut-être quelque chose à te demander. Non, non, mais je la bloque. Ça, ça m'avait mis la première puce à l'oreille, en fait. Et puis il y avait eu quelques petits trucs comme ça, genre son téléphone était toujours, toujours, toujours sur silencieux, constamment. Bon, voilà. Donc il était parti une première fois comme ça pendant 1 mois en me gardant sous le coude parce que j'avais eu un mot plus haut que l'autre, hein. On s'était énervés tous les deux et je lui avais dit mais si t'es pas content en fait t'as l'air tout d'un coup là d'être hyper déçu de ta vie, ben je te retiens pas quoi. Il m'avait dit ah ok tu me mets dehors, je lui ai dit non c'est pas du tout ce que je te dis, bah ok tu me mets dehors, ben je m'en vais.
Justement okay. Manon, est-ce que vous avez avec le recul, parce qu'on ne connaît pas encore l'issue de cette histoire. Est-ce que vous avez eu, avec le recul, le sentiment que finalement, il avait peut-être provoqué cette première dispute pour partir ?
Alors, la première, non, parce D'accord. que c'est moi qui, pour une fois, avait dit quelque chose, en fait. On était allé une soirée chez des amis et il m'avait vraiment mal parlé le jour-là devant ses amis, donc je lui avais dit une fois, deux fois, et comme il buvait beaucoup en soirée, ce qui ne le faisait pas la semaine, hein, mais par contre, tous les week-ends, il se mettait... il était très très festif, il avait tout un groupe d'amis qu'il avait depuis 20 ans, avec qui il faisait vraiment énormément la fête.
Donc l'alcool mondain, ce qu'on appelle l'alcool
voilà,
mondain.
Ouais. Exactement. Sauf que moi, qui suis plutôt assez calme, j'aime bien la fête, mais raisonnablement.
Bien sûr.
Je trouvais que ça devenait trop, en fait. Et puis, que quand il buvait comme ça, il n'y avait pas de limite. Donc, je disais, mais c'est pas possible de te mettre dans un état pareil à boire autant. Enfin, à un moment, ton corps, moi, j'ai pas envie que tu aies un infarctus à 50 ans ou que... ou que, enfin, même que les enfants voient ça, en fait. Parce que moi, quand il faisait ça, mon fils n'était pas là. Mais son fils était constamment là.
Ouais,
tous les week-ends, son fils était là. Et donc, je lui disais, mais tu te rends compte de l'exemple que tu donnes à ton fils, en fait. Ouais, donc tu me traites de mauvais père. Non, c'est pas ce que je te dis. Mais voilà. Et donc, la première fois où il était parti comme ça, on avait eu une dispute un jour sur le sujet-là, la soirée chez des amis, et le fait que je n'avais pas congratulé son fils, parce que, voilà, on avait fait une activité, je n'avais pas congratulé son fils. Donc, c'était parti de rien, en fait. Hein. Et le lendemain, il a pris les affaires de son fils pour le ramener à la gare, et il n'est pas revenu. Et je l'attendais pour une soirée, justement, avec des amis. Et je reçois un SMS qui me dit « Je ne rentrerai pas ce soir.
Ah. »
D'accord. Donc, j'essaye d'appeler. Et il me dit « Ben non, on s'est disputé hier. Donc, je ne rentrerai pas ce soir. Je ne sais pas quand je vais rentrer. » Mais je lui dis « Mais c'est pas possible. Tu travailles demain. » Et puis là, je regarde dans la maison. Et en fait, j'étais présente dans la maison quand il avait chargé la voiture pour son fils. Sauf qu'il avait pris toutes les affaires essentielles pour lui, c'est-à-dire son PC portable pour le boulot, sa trousse de toilette, tous ses vêtements. Et j'en avais rien vu, en fait. Et je lui en avais beaucoup voulu, parce que je lui ai dit, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit avant de partir? Pourquoi tu me mets devant le fait accompli? Pourquoi? Enfin... Donc, soi-disant, il allait chez un copain. Donc, il m'a, pendant 15 jours, il me braillait dessus en me disant, ouais, tu m'as mis plus bactère, parce que hier, tu m'as dit que si j'étais pas content, j'avais qu'à partir, donc tu m'as mis dehors. Du coup, je me retrouve sans rien, j'ai plus de logement, je suis chez un copain, à l'âge que j'ai, tu te rends compte? Au final, j'ai appris après qu'en fait, il avait un logement.
Ça a coupé qu'il avait
un logement, qu'il avait un logement
dès
le premier jour où il est parti. Donc, ça voulait dire qu'il avait anticipé ça. parce que, en fait, pendant le mois où il est parti, moi, j'étais complètement perdue. En fait, c'était quelqu'un que j'aimais énormément. Je ne comprenais pas que ça prenne une ampleur comme ça. La veille de notre dispute, c'était encore idyllique. Et tout d'un coup, hop, tu pars parce qu'on a eu un mot plus haut que l'autre. Et je ne sais pas quand tu reviens, en fait. Et tous les jours, il me rappelait en pleurant, en me disant, mais en fait, je m'en veux parce qu'effectivement, je sais que je vais trop loin. Mais en fait, tu me mets les nerfs à fleur de peau. Et puis, je t'aime trop, c'est pour ça. Et donc, j'étais encore hyper accrochée, sans comprendre, sans avoir de recul, quoi. Mais pendant ce mois-là, je me disais, mais t'as quelqu'un? Ah, mais non, mais comment veux-tu que... C'est affreux de me dire ça, comment veux-tu... que j'ai quelqu'un, je pense qu'à toi tout le temps, je mange plus, je dors plus, ça va pas, d'accord. Et donc, il revenait comme ça, de temps en temps, et puis il repartait, et puis tout d'un coup, il est revenu officiellement, au bout d'un mois. Moi, ça avait quand même un peu cassé les choses, parce que je me disais, mais voilà.
Je comprends.
Je comprends même pas pourquoi t'es partie à ce point-là, en fait, un mois, c'est long. Et puis au bout d'un mois, il est revenu tout feu tout flamme. Donc ça y est, j'étais à nouveau la femme de sa vie. Ça y est, il fallait qu'on visite des maisons. Donc là, je lui avais dit non, clairement, moi je revisite pas de maison là. Déjà, je sais même pas si tu resteras encore un mois ici en fait. Mais si, tu vois bien, on a passé un coup dur. Voilà, c'était compliqué. Ça arrive dans les couples, mais on va y arriver. On est une équipe, etc. Voilà. Donc, quand il est revenu, on avait revu ses amis qui m'avaient dit oh, ben, on est content que vous vous remettiez ensemble parce qu'il n'a jamais été aussi amoureux. Enfin, voilà. Et puis, vous êtes super ensemble. OK. Et j'avais eu le malheur de dire à ses amis, parce que j'avais dû faire un peu la moue. Ils me disent bah, t'es pas contente? Je dis bah, si, mais j'aurais préféré qu'il garde son appartement. Parce qu'en fait, il est parti, il a pris un appartement, il est revenu, il a quitté son appartement. Enfin, moi, je suis pas dans la boucle. Et au final. Avant qu'il reparte, qu'il revienne ici, j'aurais aimé comprendre, en fait. Donc ça, il m'en a beaucoup voulu, d'avoir dit ça devant lui, devant ses amis.
D'accord.
Mais on est reparti dans la vie, voilà. Et puis le boulot, les enfants, enfin, le quotidien est revenu très vite, très très aimant. Et puis voilà, resto, voyage, ceci, cela, voilà. Et une deuxième fois, 6 mois après, c'est reparti sur, pareil, une bêtise, en fait. Et il a repris ses clics et ses claques, cette fois-ci pas derrière mon dos. Il m'a dit, bah voilà, ton fils a dit ça au restaurant, ça m'a pas plu, donc je m'en vais. Je vais passer le week-end chez mes parents et je ne serai pas là ce week-end et je ne sais pas quand je reviens. Donc là, je lui dis, bah non, tu m'avais promis que tu ne referais pas ça. Tu me l'avais certifié, ça fait 6 mois que je vis dans la peur que tu repartes comme ça sans comprendre pourquoi. Là, ce week-end, moi, ça va pas. J'avais eu quelques soucis dans ma famille. Je lui ai dit, ça fait une semaine qu'on s'est pas vu parce que je suis partie dans ma famille par rapport à mes soucis. Lui, il était parti dans la sienne parce qu'il avait perdu sa grand-mère. Je lui ai dit, là, on se retrouve et tu repars parce que mon fils a dit un mot qui t'a pas plu. Qui était pas du tout, en plus, c'était pas du tout une attaque de mon fils. Hein. C'était vraiment, il a dit une phrase comme ça, qui n'a pas plu à monsieur. Et donc, voilà, il est monté en pression. Alors que c'était ni une attaque de mon fils, ni quelque chose pour lui faire du mal. Vraiment, c'était la parole d'un enfant de 8 ans qui ne fait pas attention, quoi.
Mais bon, c'est la contrariété.
Je lui ai dit non, j'ai dit, si tu pars là, ça ne le fera pas du tout, parce que je te connais, quand tu pars comme ça, je ne sais pas quand tu reviens. J'ai dit, la dernière fois, ça a duré un mois, c'est hyper long, un mois. Alors, mais moi, je te le dis, c'est comme ça, je pars. Et puis, je reviendrai, donc je lui ai dit, ben non, là, si tu pars, tu pars, quoi. Et tu me rends les clés. Il dit, ah oui, c'est ça, toi, t'es chez toi, faut te rendre les clés. Ben, oui, parce que à un moment, tu peux pas, c'est pas un hôtel, quoi. C'est soit on est en couple et quand on a des problèmes, on en parle. Soit quand tu pars, tu te décides, quoi. Enfin, moi, je peux pas rester accrochée à quelqu'un ou je sais pas ce qu'on vit, en fait. Je comprends pas ce qu'on vit.
Ben non, quand vous lui avez dit ça, est-ce que vous étiez convaincue de ce que vous disiez
ou... Non. Pas du tout, j'étais très très amoureuse de lui, très très accrochée. Il est parti.
Oui, ah, il est parti quand même.
Oui, il est parti quand même. Et ça s'est reparti sur 3 semaines comme ça, où je recevais des messages, jour, nuit, des visios. Il pleurait, il vomissait en me disant « mais je peux pas me passer de toi, mais en même temps, je peux pas vivre comme ça ». Je disais « mais vivre comment ?» Mais tu comprends pas, je suis en échec. Et je comprenais pas en fait ce qui se passait, parce que notre vie, elle allait bien au quotidien. Mmh. Vraiment, on avait très peu de friction, quoi. Et sur les enfants, généralement, ce qui est quand même le quotidien d'un couple. Donc moi, à chaque fois, je me disais, mais peut-être parce qu'il a jamais vécu en couple, il arrive pas à gérer, en fait. Donc je lui trouvais des excuses de ce style-là.
En tout cas, vous faisiez ce que vous pouviez pour essayer de comprendre. Ouais.
Et puis donc, il est revenu comme ça pendant un mois. Il revenait, il couchait mon fils. Il revenait ici, il arrivait en pleurant. Forcément, on se remettait à se faire des câlins, à aller plus loin, etc. Et puis hop, il repartait. Donc, je lui dis, mais tu fais quoi là? Tu repars? Ah oui, parce que je ne suis pas encore capable de revenir définitivement ici. D'accord. Bah, en fait, pourquoi tu es revenu là? En fait, je ne comprends pas. J'avais l'impression qu'il jouait en fait avec moi.
Ouais.
Et puis, ben, un jour, je me suis dit, je vais quand même contacter son ex, parce que cette histoire me paraît étrange. J'arrive pas à comprendre, en fait. J'arrive pas à comprendre ce qui se passe, alors qu'on a vraiment une vie au quotidien qui est géniale, quoi.
Ouais.
Et quand j'ai contacté son ex, donc je me suis aperçue que tout était faux, en fait. Il avait vécu, non pas un an, mais 2 ans avec elle, qu'il avait vécu chez elle, que dès le départ, quand il l'avait rencontrée, il était venu chez elle. Il avait quand même gardé son appart avec elle, mais il vivait chez elle au quotidien. Très vite, il avait pris sa fille sous sa coupe, très aimant avec sa fille comme il était avec le mien. Et puis là, en fait, elle m'a montré, on avait exactement les mêmes photos.
Le même
schéma. Les mêmes vidéos, les mêmes vidéos avec nos enfants. Les mêmes phrases, t'es une femme merveilleuse, t'es celle que j'ai le plus aimée. Alors que moi, il m'avait dit, cette fille-là, je ne l'ai jamais aimée. Je lui avais dit, mais c'est très bizarre, tu peux pas être un an avec quelqu'un que tu n'aimes pas. Non, mais j'avais de l'affection pour elle, mais je l'ai jamais aimée, je lui ai jamais dit un mot d'amour comme je le fais avec toi. Je suis pas habituée à dire des mots d'amour, je suis pas habituée à faire des cadeaux, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Parce que j'étais couverte de cadeaux, hein. Quand il partait comme ça, il revenait, j'avais une voiture, un scooter, et je lui disais, j'en veux pas. Enfin, moi, ça n'excuse rien, c'est pas parce que tu m'achètes quelque chose que ça va aller mieux demain, en fait. Que je comprenne pourquoi t'es partie, je m'en fiche des cadeaux, en fait, ça va rien racheter. Et donc cette fille a eu exactement la même vie, les cadeaux, les voyages, les restos, ce qu'il m'avait pas du tout dit, hein. Il m'avait dit tout l'inverse. Et il a fait vendre à cette fille, il lui a fait quitter son travail, vendre sa maison, pour pouvoir en racheter une avec elle. Et puis, quand elle a vendu sa maison, donc elle a quitté son travail. Moi, il avait essayé de me faire quitter mon travail pour m'épanouir dans autre chose, parce que je ne m'épanouissais pas comme il fallait dans mon travail, et que lui allait être là pour me soutenir.
Forcément.
Ce que je n'ai pas fait.
Ouais.
Ce que je n'ai pas du tout fait, en lui disant, moi, je ne sais pas ce qui demain peut arriver. Donc, je ne quitterai pas mon travail avec un travail précaire qui m'éclatera, mais précaire, quoi. j'ai un enfant à élever, donc oui, mais je serai toujours là pour financer. Non, non, chacun ses enfants, chacun finance pour ses enfants. Et donc, elle a quitté son travail, elle était infirmière libérale, elle a tout plaqué pour être dans la décoration. Et donc, elle est devenue étudiante, elle a vendu sa maison. Et au moment où elle a vendu sa maison, ils avaient racheté, mis une option sur un terrain pour construire, ouais. Il est parti du jour au lendemain, en lui disant, je ne peux pas aller plus loin parce que je vis, si je m'installe avec toi dans cette maison, alors que ça faisait déjà 2 ans qu'il était avec elle, hein, contrairement ouais. à ce qu'il disait. Si je m'installe avec toi dans cette maison, je serai trop loin de mon fils, ce qui n'est pas concevable. Sauf qu'en fait, au moment-là, il m'avait déjà rencontré et il vivait chez moi dans la même ville, en fait.
Ah oui. D'où les appels incessants de...
D'où les appels incessants de cette fille. Donc moi, il m'avait dit, je l'ai bloquée, je ne la revois pas, je ne la contacte pas, je l'ai bloquée de tous les réseaux sociaux pour pas qu'elle me contacte. Moi, ce qu'elle m'a appris, c'est que le jour où il l'a bloquée quand il était chez moi, en fait, il l'a rappelé le lendemain. Il a même fait des visios avec son fils qui habitait chez moi, de chez moi. Mmh. Ils étaient à l'étage au-dessus pour lui faire des visios à elle. En lui disant, voilà, je m'excuse pour tout le mal que je t'ai fait, mais je ne te reverrai pas. Mais je voulais te dire que tu étais une femme merveilleuse. Donc, il l'a gardée comme ça sous emprise. Elle, elle a fait 2 tentatives de suicide. Elle a mis plus de 2 ans à s'en remettre et elle n'a jamais su qui vivait chez moi, en fait, dans la même ville. Puisqu'il lui disait, bah, je ne peux pas vivre dans cette ville-là, c'est un peu trop loin de mon fils, il est à 100 kilomètres, voilà, je ne peux pas. Et donc j'ai appris tout ça par cette fille, que voilà, ça avait duré comme ça, qu'en plus il était sur plusieurs sites de rencontres quand il était avec elle, elle s'en était aperçue, ce qui devait être le cas avec moi quand il partait comme ça en fait. Parce que du coup j'ai fait des tests depuis, et, et ben en fait, voilà, j'ai eu de jolis cadeaux de la part de monsieur. Puisque moi, quand il est rentré dans ma vie, en fait, j'avais été déjà trompée par des ex. Donc, je lui avais dit, si tu veux qu'on se mette ensemble, c'est on fait chacun des tests vraiment très, très complets de notre côté.
Oui.
Et à l'époque, on n'avait rien ni l'un ni l'autre. Alors, si, lui, il avait, quand il est arrivé, lui, il avait une chlamydia. Mais il m'avait dit, ah, ben, ça doit être mon ex, etc. Donc, il avait été sous antibiotiques. Et donc, nous, moi, j'avais rien. Et il avait refait des tests. Et quand tout était bon, voilà, on s'était réellement voilà, mis ensemble.
Mis ensemble, oui.
Voilà. Et là, du coup, ben, j'ai des jolies surprises. Donc voilà. Et en fait, cette relation, vous allez me dire, c'est une simple rupture. Mais pour moi, c'est hyper violent. Parce que j'ai l'impression que pendant 2 ans, j'ai vécu avec quelqu'un qui n'était pas là. Personne avec qui je vivais, en fait. Ah, alors oui. qu'il n'y avait aucun signe et nulle part et que personne n'a rien vu parce que ce gars-là, il a une aura très, très forte que tous les gens qui l'ont rencontré, que ce soit dans ma famille, dans mon entourage, tout le monde me disait « Waouh, t'as une chance inouïe de tomber sur un homme comme ça, quoi, vraiment. » Et que ce soit à son boulot, que ce soit partout où il passe, en fait, les gens sont hyper séduits, quoi.
Ouais.
Ouais, éblouis, vraiment.
Ébloui.
Dans son boulot, il arrive à monter en grade, à prendre des promos, alors que ses collègues qui sont en concurrence avec lui, c'est soi-disant ses amis. Ces mêmes collègues nous ont prêté leurs maisons de vacances, des maisons très très chic pour moi de mon point de vue. Hein. Et moi, je l'avais entendu une ou deux fois au téléphone quand on était en télétravail. À dénigrer ces personnes face à son chef. Et je lui avais dit, mais c'est tes copains, c'est pas chouette ce que tu fais en fait. Non mais attends, les copains c'est les copains, c'est mes copains à l'extérieur, c'est des gens que j'apprécie, mais au boulot, je suis désolée, c'est le boulot quoi. Enfin, mais je lui avais dit, mais est-ce que tu leur dis à eux que tu parles comme ça à ton chef? Et donc c'est comme ça qu'il arrive à monter. Donc ses collègues restent hyper amis avec lui parce qu'il est toujours très séduisant devant eux, ils ne savent pas comment il se comporte derrière eux. Et puis ses chefs sont éblouis par le fait que ben il est forcément meilleur que ses collègues puisque il le dit quoi, il le nomme.
Vous avez réussi à sortir de cette relation toxique depuis combien de temps exactement?
Alors j'en suis pas sortie, hein. C'est lui qui est parti et moi j'ai tout découvert une fois qu'il est parti. J'ai eu vraiment quand il est parti, j'ai eu vraiment un moment horrible parce que juste avant qu'il parte, comme j'arrivais pas à céder sur les maisons. Il avait décidé de faire une extension dans ma maison.
Oui.
Donc la semaine où il est parti, hein, on était sur un projet d'extension qu'il voulait signer. Il avait appelé son père, tous ses copains en disant hey, « les gars, vous allez venir nous aider à faire les travaux ». Et c'est la même semaine où il m'a demandé en mariage devant mes parents.
Mmh.
Donc moi, entre la semaine là et la fin de semaine où il est parti, j'ai pas compris en fait. Je me disais, on est dans un projet, on va agrandir la maison, on était à deux doigts de signer, on avait pris un voyage pendant un mois où il est parti, il venait pas au voyage. Au final, je suis partie toute seule parce qu'il a jamais voulu donner son billet. Il me disait, non, je ne veux pas que tu partes avec quelqu'un, si tu pars, c'est avec moi. Et puis, il n'est pas venu. Alors que le week-end d'avant, on s'était vu et c'était merveilleux, c'était formidable. Il s'était mis à pleurer dans le lit en me disant oh, on a passé un week-end superbe. Je lui disais, mais c'est la même vie qu'on a tous les jours en fait, donc je comprends pas pourquoi tu pars.
Alors maintenant, il est parti il y a combien de temps?
Il est parti fin février, et jusqu'en avril, on a gardé cette relation là où il revenait, il repartait, il revenait, il partait. Et c'est en avril où j'ai tout découvert en téléphonant à son ex. Et donc, je lui ai dit.
Oui, donc ça fait 3 mois.
Voilà.
Ça fait 3 mois. Alors, vous en êtes où aujourd'hui?
C'est très compliqué.
Oui, voilà, psychologiquement, vous en êtes où? Parce que là, on comprend complètement la notion de violence pour vous.
Oui, c'est très violent. En fait.
Ah oui, oui.
C'est très violent parce que je me dis, c'est pas une rupture parce qu'on s'aime plus. Moi, j'ai déjà subi des ruptures où j'aimais encore l'autre personne, mais la personne était tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. C'est très dur. Mais vous avez vécu avec la vraie personne, en fait. Il est juste tombé amoureux de quelqu'un d'autre, quoi.
Mmh.
Là, j'ai l'impression d'avoir été flouée, abusée, manipulée pendant 2 ans, qu'il entretenait des relations avec d'autres femmes, alors que moi, il était hyper, hyper jaloux. Il m'a avoué qu'il avait regardé, parce qu'une fois, il me reprochait des choses sur mes amis. Et un jour, il me dit une parole que... Et là, j'ai compris, en fait... qu'il avait il pistait mon téléphone, il avait regardé dans mon ordinateur, et même quand il est parti, une fois qu'il est parti, je me suis aperçue qu'il avait même réussi à aller sur ma messagerie mail et qu'il avait mis son propre numéro de téléphone en récupération de données. Et tout ça, je ne le savais pas, parce que moi, je donnais mes codes. Voilà, enfin, moi, je n'étais jamais allée ni sur sa messagerie ni sur son téléphone, mais je ne lui cachais pas le mien parce que j'avais rien à cacher, en fait. Voilà. Et en fait, il avait été regardé dans mon téléphone derrière mon dos. Et je me suis aperçue de tout ça, en fait. Et donc, son ex-compagne, qui pour lui n'était pas une compagne, puisque c'était juste une relation comme ça, m'avait expliqué qu'en fait, avec la mère de son fils, il avait été trompé. Donc, moi, ce n'est pas du tout la version que j'ai eue. Hein. Qu'il avait été trompé parce qu'il l'avait géolocalisé sur son téléphone à elle. Il lui avait mis une puce dans le téléphone et il avait découvert qu'elle le trompait.
Alors Manon,
donc j'ai compris du coup pourquoi il pistait mon téléphone, ma messagerie, mon PC.
Manon qui dit violence dit victime.
Pardon, j'ai pas entendu.
Qui dit violence dit victime.
Oui, après, je ne sais pas si c'est réellement de la violence, en fait, en tant que telle.
En tout cas...
Mais moi, je le vis comme ça, quoi.
Là, de ce que vous nous décrivez, on est quand même sur une personne qui a clairement le profil du pervers narcissique. Forcément, c'est ce que ça évoque, cette emprise, le fait d'être complètement... De vous faire des lunes de miel, vraiment à vous porter au nu, à vous offrir tout ce que vous voulez, de façon à vraiment vous mettre, de pouvoir contrôler vos émotions, de tout contrôler finalement. En plus,
les présents, moi, ne m'atteignaient pas. Ce qui m'accrochait le plus à lui, en fait, c'était la relation qu'il avait avec mon fils. En tant que maman, cette relation qui était hyper belle, hyper... paternel entre guillemets, mon fils a son père, hein, il le voit, mais il était beaucoup plus aimant que le propre père de mon fils, beaucoup plus attentionné, et ça, ça a eu un effet d'emprise sur moi énorme en fait, parce que j'y ai vraiment cru en fait à cette histoire.
Mais c'est normal, mais c'est n'importe quelle personne bien constituée y croirait, avec tout ce qu'il a, il vous a déroulé le tapis. Il était présent, il répondait à toutes vos attentes, toutes vos envies, tous vos besoins.
Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il était présent, oui, quand tout allait bien, mais quand ça n'allait pas dans ma vie ou quand j'avais des choses qui n'allaient pas, j'ai eu des problèmes de santé, il n'était plus du tout présent.
Mmh.
Donc, j'avais quand même des signes et je m'en veux de ne pas m'être fiée à ces signes, en fait.
Alors, justement, c'est là où...
Parce que je lui le reprochais, je lui disais, ben, tu te rends compte que je suis allée toute seule à l'hôpital, que c'était pas sympa, t'étais pas avec moi. Ah, mais comment tu peux dire ça? Tous mes amis me considèrent comme quelqu'un de loyal et d'hyper soutenant. Et t'as vu comment tu me décris? Ben oui, mais moi, je t'ai pas senti soutenant, là, tu vois.
C'est le travail de sabotage, vraiment, du pervers narcissique. Hein. C'est de vous faire croire, penser que c'est vous qui avez tort, que vous ne comprenez pas, que vous ne... n'avait aucune compassion, aucune empathie. Vraiment, c'est pour ça que je vous parle de victime. Et là, ce qui va être très
important... Moi, je me sentais plus mégalomaniaque que pervers narcissique, en fait. Parce que je me dis que c'est son ego démesuré qui le rend comme ça.
Un narcissisme extrêmement prononcé chez ce monsieur.
Oui, oui.
C'est lui d'abord, c'est... voilà.
Et je me dis qu'il y avait des signes très très parlants. La première fois où on s'est rencontrés, on a parlé de notre famille. Et ce que je trouvais très attendrissant chez lui, c'est qu'il parlait de ses parents et de sa famille avec beaucoup d'amour. Donc ça, je trouvais plutôt sain.
Oui.
Je trouvais ça plutôt sain. Et en fait, il me disait, oui, mais mon frère, tu verras, c'est pas du tout comme moi. Mon frère, c'est un peu un paysan, un peu beauf. Bon, il est très sympa, hein, il est génial, hein, mais il est beaucoup plus moche que moi. Et je lui dis, mais comment t'en parles? Il me dit, non, mais c'est pour rire. Sauf que sous les c'est pour rire, par exemple, moi, il me disait souvent, tu sais, t'es très cultivé, t'es plus cultivé que moi, mais je suis plus intelligent que toi. Et quand je lui disais, mais c'est dégueulasse de dire ça. Non, mais c'est pour rire. Mais non, dans l'humour, il y a toujours un fond de vérité, en fait.
En tout cas, chez lui. Et là où vous allez, si vous le souhaitez, travailler, c'est à la fois sur votre estime de vous-même et sur votre confiance en vous-même. Là, vraiment, il y a deux parties en vous qui ont été extrêmement touchées. C'est votre estime, donc votre valeur, ce que vous pensez valoir, et votre confiance, ce que vous êtes en capacité de pouvoir faire. Aujourd'hui, c'est vraiment important de bien cloisonner ces deux choses. Parce que vous pouvez à la fois soit travailler sur déjà l'estime de vous-même, qui demande un peu plus de travail, et là, il faut être accompagné, Manon, et la confiance en vous, donc ce que vous avez...
C'est ce que je fais.
Ah.
Et tout à l'heure, vous parliez de MDR.
Oui.
J'ai rencontré une psy qui...
Ah, très bien.
Pas le MDR, mais c'est l'ICTV, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est apparemment...
En sémantique, quelque chose qui ressemble à de l'EMDR.
Voilà. Et là où je m'en veux, c'est que le papa de mon fils était quelqu'un de pervers narcissique, mais pas du tout comme ça. Et en fait, c'était la seule fois de ma vie où j'avais rencontré quelqu'un. J'ai mis 6 ans à m'en remettre et j'avais fait un travail avec une psy qui m'avait dit « Mais vous verrez, maintenant, vous aurez des antennes. » Parce que vous avez compris le cheminement, etc.
Mais c'est ce qui vous a aidé, Manon, justement.
Mais sauf que non. Enfin, j'ai l'impression d'être encore plus bête parce que je me dis, mais je suis retombée dans le panneau. En fait.
Absolument pas. C'est bien vous qui lui avez dit, tu me donnes les clés. Enfin, vous avez vraiment, contrairement à l'ex qui, elle, malheureusement, a quand même fait 2 tentatives de suicide, vous aviez une petite voix intérieure qui vous disait, attention, à plusieurs reprises, hein, vous avez dit, ça a clignoté, hein. Il y a eu des alertes chez vous, des signes. Donc, vraiment, reprenez confiance en vous. Finalement, l'acte de lui dire « tu dégages », c'est ce qui vous a sauvé.
Oui, mais c'est pas ce qui m'a sauvé, puisque je lui ai dit ça. Et au final, derrière, quand il me rappelait, je le laissais revenir, en fait. Et c'est là où je me dis « mais qu'est-ce qui tourne par rond, en fait ?» Parce que j'aurais dû être ferme et lui dire « bah, t'es parti, en fait ».
Ah oui.
Et j'étais tellement accrochée que je lui ai dit « tu me rends les clés et tu t'en vas ». Ça, c'était en fin février. Et pendant un mois et demi, il a joué avec moi où il revenait, repartait, revenait, repartait. Et je l'ai laissé faire.
Ah, bon. En tout cas, Manon, continuez à voir cette thérapeute. C'est très important. Estime de soi, confiance en soi. Et je vous garantis que vous êtes vraiment sur le bon chemin. Donc, voilà, continuez à travailler là-dessus. Et je suis certaine que lorsque vous vous sentirez prête à redonner votre cœur à quelqu'un, ça sera la bonne personne. Un grand merci pour cette émission. Merci à Myriam, à Paul, à Manon. On se retrouve demain soir à 22h pour de nouvelles confidences.